sous les couvercles, la Good Food.
Tartiflette, raclette & Co, nous fondons ce matin pour les pâtes hivernales avec notre invité, nos invités du jour, Étienne Boissy. Ça va toujours Étienne ?
Ça va très bien.
Alors, on va faire quand même un petit peu les présentations. Vous êtes fromager en région bruxelloise, From Comptoir c'est vous, mais c'est un duo avec Bénédicte. Et Bénédicte est cloué au lit, il aurait dû être avec nous, mais donc on l'embrasse bien fort.
Bonjour.
Fils d'agriculteur de la Drôme, passionné de fromagerie depuis la plus petite enfance, donc meilleur ouvrier de France fromager en 2004. Vous avez, on vous a retrouvé au célèbre Hall Paul Bocuse à Lyon, hein, donc déjà la passion de transmettre, de nous faire savourer. Et puis cette rencontre avec Bénédicte et l'installation à Bruxelles, en quête toujours des meilleures pâtes fromagères au monde. On peut le dire comme ça ?
C'est bien résumé. La présentation.
Voilà. Oui. Vous n'êtes pas venu tout seul. Un joli plateau fromage avec des fromages pour la raclette.
Voilà.
Comme ça, faites-nous rêver.
J'ai fait une petite sélection, fromage et charcuterie.
Ouais,
tout prêt à poser sur la table.
Je vois qu'il y a des bleus aussi.
Oui.
Ouais.
Le bleu, c'est pas facile. Hein,
non.
Et on l'imagine peut-être pas en raclette.
Mais pourquoi ?
Il y a certains bleus qui s'y prêtent très bien. Donc ça, c'est un bleu de Gex.
Ouais.
Du Jura. Et c'est un bleu qui ne tranche pas à la fonte.
Qui ne tranche pas, ça veut dire quoi ?
Où il n'y a pas une partie grasse qui va s'échapper.
D'accord, ça reste bien...
Ouais, bien... onctueux, et ça entoure bien la patate, c'est délicieux.
Alors Étienne, on va vous mettre au défi de nous donner les meilleurs conseils pour réussir. Eh bien, on va commencer par la tartiflette, incontournable. Ouais. Parler de tartiflette, c'est parler du reblochon dans la version originale. Ouais. Le reblochon, il vient d'où ? C'est donc un fromage à pâte molle, croûte lavée. On est dans les Alpes, c'est ça ?
C'est ça, c'est la Haute-Savoie.
Ouais.
C'est Thônes, le berceau du reblochon. C'est la ville de Thônes.
Ouais.
On trouve aussi au Grand Bornand. Nous, chez nous, par exemple, on travaille avec un producteur qui est du Grand Bornand. Et puis alors, dans les reblochons, il y a les reblochons fermiers et les reblochons laitiers.
Donc, quelle est la différence ? Il y a aussi une petite pastille
qui
nous indique ça.
C'est la petite pastille. Enfin, moi, en tant que fromager, c'est plutôt la petite pastille verte qui m'intéresse, parce que ça veut dire que c'est le fromage est fermier. Donc
il est fabriqué à la ferme.
À la ferme, par un producteur qui s'occupe de ses bêtes, qui fabrique le fromage sur place, qui démarre même un peu l'affinage. Donc c'est souvent un gage de qualité. Et puis surtout, c'est un lieu précis dont on va pouvoir parler lorsqu'on propose ça.
Mm-hmm.
Alors bien sûr, dans les tartiflettes, on pourrait utiliser un reblochon laitier beaucoup plus classique.
Est-ce qu'on peut dire que c'est industriel ou pas ?
Non, laiterie, c'est pas forcément industriel.
D'accord.
Ça peut être aussi des producteurs qui se rassemblent et qui amènent à un endroit précis. Donc, faut pas penser tout de suite que c'est industriel.
Mm-hmm.
Mais le fermier, on va rechercher le caractère, surtout.
C'est ça. Donc, un reblochon fermier d'une telle ferme n'aura pas le même goût que le
Exactement.
Reblochon fermier d'une ferme à 3-4 km.
Et je trouve que dans la tartiflette, il faut essayer d'avoir quand même les meilleurs produits.
Bouguise, vous êtes d'accord avec ça ? Je rappelle, Bouguise, que vous êtes un Il est plus là, il est tombé du télésiège. Bon, on va essayer de le retrouver. Woogies, il faut revenir, là, on vous attend. Bon, c'est pas grave. Donc, Woogies, on va tenter de le retrouver parce qu'il est addict à la tartiflette, Carlo.
Oui.
Et il vient de poster ce matin, justement, une recette de croziflette. C'est-à-dire, il utilise les crozets, qui sont des pâtes de sarrasin. Uh-huh. Et il utilise la recette de la tartiflette, mais il remplace donc la pomme de terre par
les crozets. C'est un standard qu'on voit de plus en plus sur les pistes de ski, croziflette.
Alors, du coup, c'est vous qui vous y collez, Étienne. Comment réussir une bonne tartiflette ? Donc, il nous faut des ingrédients. Reblochon. Pomme de terre.
Pomme de terre, évidemment. Un bon lard.
Oui.
Bon lard fumé. Mm-hmm. Et puis, des oignons, évidemment.
Mm-hmm.
Et voilà, donc...
Comment on fait ? On va donc faire rissoler oignons, lard.
Oignons et lardons, à part, oui.
Mm-hmm.
Et puis, ensuite, on va faire cuire les pommes de terre.
Allô ?
Patate,
non, pas allô au téléphone, allô les patates. Oui.
C'était Carlo en fait, Étienne.
Oui, donc, allô. Oui,
ouais, avec la peau et puis on les tranche.
Et on les tranche ensuite.
D'accord.
Oui. Donc en fait, l'idée sur la présentation dans un plat, avant de le mettre au four, c'est oignon, lardon, pomme de terre, oignon, lardon, et ensuite on tranche les reblochons sur le dessus.
Donc on le découpe en deux et on les met par-dessus les reblochons et on met ça au four.
Oui.
Voilà,
exactement.
Et basta.
Et basta.
Woogies, il est de retour.
Je suis là.
Mais vous étiez où ?
Bah, ça a coupé, moi je parlais tout seul.
Bon, Guise, on vient d'entendre la recette de la tartiflette de notre ami Étienne. Votre
bien
recette,
entendu.
C'est quoi votre petit truc?
Et ben alors du coup la recette d'Étienne a l'air très bonne. J'ai pas envie de me mettre toute la Haute-Savoie à dos, mais certains mettent de la crème, ce qui est quand même très gourmand. Après voilà, ça on met peut-être un peu moins en valeur le reblochon, mais sinon un petit truc pour différencier de la recette qu'on vient d'entendre, c'est qu'au lieu de couper le reblochon en deux dans le sens de la longueur, on peut le couper en tranches, ce qui fait que ça répartit mieux la croûte et on n'a pas du coup un gros morceau de croûte sur le dessus.
D'accord.
Mais plutôt des lamelles. Et ça, c'est sympa.
Oui, mais donc la recette, elle est à l'identique. Un bon lard, des bons oignons.
Pas beaucoup d'ingrédients, on en veut des bons, quoi.
Ouais. Ce matin, vous avez posté sur vos réseaux la recette de la croziflette. On rappelle ce que sont les crozets aux Guises ?
Tout à fait. Alors, pour la petite anecdote, les crozets qui sont dans la vidéo, je les ai achetés chez Étienne. Donc, comme ça, on est la boucle est bouclée.
Pas tout savoir.
On est servi.
Et du coup, les crozets sont des petites pâtes savoyardes de forme carrée.
Ouais.
Et moi, je trouve ça absolument délicieux. Évidemment, en Haute-Savoie, on n'est pas très, très loin de l'Italie. Donc, il y a une histoire commune au niveau de tout ça. Et alors, ce qui est génial, c'est que ça change, évidemment, des pommes de terre. Et on a quelque chose qui est beaucoup plus crémeux parce que du coup les pâtes enrobent beaucoup plus et comme elles sont toutes petites et ben ça permet d'avoir des bouchées très très gourmandes.
Mais Louise, les crozets, vous les cuisez, il faut pas qu'elles soient al dente, elles doivent être un peu croquantes avant de repartir au four, je suppose.
Oui, alors il faut pas les cuire trop, moi j'aime bien quand c'est un peu al dente, il faut suivre souvent les recommandations des paquets, mais moi je dis quand même qu'il faut essayer de faire quand même beaucoup moins que sur les paquets car souvent ça fait un peu trop cuit selon moi, donc je préfère les laisser vraiment al dente pour qu'ils continuent de cuire pendant la cuisson au four.
Voilà, les crozets. Et vous buvez quoi avec ça, Guise ?
Ah bah alors du genépif pour finir. mais pour commencer, moi j'aime bien accompagner ça avec du blanc. Et pour rester en Haute-Savoie, j'aime beaucoup soit mondeuse en rouge.
Ouais.
Et puis si on veut la faire tradie en blanc, moi je préfère le blanc. J'aime beaucoup le cépage Altesse. Donc on peut retrouver des cépages qui sont très frais et c'est super agréable à boire avec. On adore. On peut en mettre d'ailleurs un petit peu dedans.
Ah oui, c'est pas mal ça. Étienne, vous validez ça ? La petite gouttelette là.
Ah oui, toujours. Oui.
Ah toujours ?
Oui.
Vous l'avez pas dit ça, hein ?
Oui.
Coquin.
La petite gouttelette de vin.
Ça aide à fondre.
Et après, ça fait toujours du bien.
Mais j'ai l'impression que la tartiflette, on se permet facilement des variantes.
Bah oui.
Par exemple, Carlo, toi tu nous as fait un jour une tartiflette à base de céleri et du herbe. Donc finalement c'est...
On peut tout faire de toute façon, je veux dire, il n'y a rien qui est interdit. Mais
ça fait rire aux Guises. Hein.
Le céleri herbe, on le cuit un peu ferme et puis ensuite on peut faire une tartiflette au céleri herbe. Mais dans le cas présent, c'était pour quel temps pour la planète ? Faisons un peu la pub pour la maison. C'est une herviflette avec du fromage de herbe qui n'est jamais qu'un fromage à croûte. Alors je parle sous contrôle du MOF, un fromage à croûte lavée et à pâte molle, comme un Munster, comme un reblochon,
maroilles,
etc. Sur la tartiflette, peut-être une chose, mais et là aussi, notre ami MOF, il doit le savoir mieux que moi, mais c'est un plat relativement récent, c'est-à-dire que la pella était le plat originaire, c'était juste une poêle qu'on foutait dans le feu avec des patates, et on a rajouté des choses. Et c'est, semble-t-il, le syndicat du reblochon pour pousser la conso qui a... c'est la légende officielle.
Ils ont été bien inspirés, ça a été un succès commercial incroyable. J'entends le petit Woogies la réclamer, papa. Woogies, on va vous laisser.
Mais non, c'était pas le mien, donc il peut partir.
Ah, alors on s'en fout. On va quand même vous laisser.
Parce
que je pense que vous allez dévaler les pentes. Et puis après, une bonne tartiflette. Merci beaucoup, Woogies.
Je vais aller la manger en votre honneur, en tout cas.
Merci beaucoup, Woogies, à bientôt.
Bonne émission, ciao.
Au revoir.
Donc on aura compris les amis que la tartiflette se décline un petit peu selon les envies et je craquerais bien pour une petite tartiflette au fromage de herbe.
Ah, c'est
Madeleine
bon
Hansen.
Oui,
Madeleine dont on parlera tout à l'heure d'ailleurs avec Nathalie. Un autre plat très très bon, très incontournable chez le Belge, c'est la raclette. On est aussi dans une origine dans le Valais. Hein. Alors, il faut bien qu'on comprenne, et vous en avez déjà parlé dans cette émission, Carlo, il y a la raclette et le raclette. La raclette, c'est
Le plat. Et le raclette,
c'est le fromage.
Voilà.
Mais quand on dit le raclette, on parle d'un fromage particulier ou d'une famille de fromages ?
Une famille de fromages.
Ah, et c'est quoi ces fromages ?
C'est des Alors, si on, c'est des pâtes molles, c'est des pâtes pressées non cuites.
C'est ça.
C'est des fromages qui sont pas chauffés pendant la fabrication, mm-hmm. donc qui ont quand même une élasticité, qui s'affine pas très longtemps. Hein, c'est trois, on est sur des souvent trois mois d'affinage. Ça, une fois, ce sont des formes de tomes.
Ouais.
Et ensuite,
ça fond.
Ça fond.
Et ça,
ça fond très bien.
Et puis ça fond.
Et surtout, ça se tient, c'est-à-dire à la ouais. fonte.
Ça dépend les fromages. Hein.
Ouais.
C'est justement, on a reçu pas mal de demandes ce matin. Myriam, Claude, Benoît, ils voulaient. Alors, eux, ils achètent leur fromage, leur raclette, en supermarché, sous petite barquette plastique. Ils demandent, est-ce que c'est judicieux? Est-ce qu'il y a une réelle différence avec des fromages qu'on pourrait trouver chez nos fromagers? Et la question n'est pas imbécile quand même, parce que...
Merci pour...
Non, mais c'est vrai qu'on se dit, mais finalement, du fromage, c'est du fromage, mais est-ce que c'est le cas, Étienne ?
Non, il y a deux choses. Ce qui est très important, c'est souvent la provenance.
Oui.
Choisir des fromages avec une provenance, par exemple, quand on parle de la raclette du Valais, Bagne, c'est vraiment un lieu précis. Il y a les fromages qui sont fabriqués au lait cru aussi, auront plus de goût. Et plus de tenue.
Bien sûr.
Et puis les fromages, il faut qu'ils soient aussi qu'on leur ait laissé le temps d'être prêts, de s'affiner. Des fromages trop jeunes, je pense que c'est plutôt ça, les fromages industriels, c'est qu'ils sont tellement jeunes, on n'est pas sûr de la qualité première au moment de la fabrication. Et ils sont tellement jeunes que quand ils fondent, ils partent côté
un peu. Donc, moins bonne tenue à la fonte.
Et alors, on me paye parfois dans cette maison pour observer vraiment ce qui se passe dans les supermarchés. Il y a parfois des raclettes qui sont plus chères que chez le fromager.
Ah bon?
Dès que vous allez sur des marques que je ne nommerai pas, un peu haut de gamme, soi-disant haut de gamme, toujours, comme d'habitude, détenu par des très grands groupes, ces fromages tranchés, emballés sous plastique, peuvent être plus chers que ce qu'on va trouver en accès chez un fromager. Donc, il faut quand même le savoir. Mmh. Et l'autre chose, c'est que parfois, il y a des arguments totalement bidons dessus, genre raclette au lait entier. Waouh ! Raclette au lait entier.
Et c'est quoi, il y a du fromage dedans ?
On fait du fromage avec quoi. Et ça, je trouve que ça m'énerve. Mais ça m'énerve quand je vois les trucs pareils. Là là. Mais on peut trouver aussi des produits convenables, mais on va les payer très cher.
Donc c'est peut-être pas un bon calcul.
Toujours tranchés, en plus.
Oui, donc l'idée, c'est...
Oui, quel dommage.
C'est vraiment une chouette occasion de renouer avec nos artisans fromagers. Et là, vous êtes venu avec un plateau. Ça m'étonne d'ailleurs que Carlo ne l'ait pas entamé. Qu'est-ce qui vous arrive, Carlo?
Il se retient depuis tout à l'heure.
J'ai mangé une crêpe sur le coup de 10
heures. Alors, pour la raclette... Alors, attendez, on va d'abord expliquer le type de fromage qu'on peut utiliser. Et puis, on a pas mal de demandes aussi sur l'ustensile.
Ouais.
Alors, quel type de fromage, d'abord?
Alors, tout est possible. Moi, j'ai fait une petite sélection. On en a une quinzaine à la fromagerie.
Ouais.
Donc, j'ai démarré avec la base pour moi, c'est-à-dire la raclette Savoie, la raclette au lait cru. J'aurais pu mettre aussi la raclette suisse. On a la même en Suisse.
Mm-hmm.
Donc, c'est...
Laquelle est la meilleure, la suisse ou la française?
Mais c'est une IGP, non? C'est une indication géographique protégée.
Oui.
Donc, finalement, c'est le pays, quoi.
Oui, c'est le pays. Quel est le meilleur? Ça, c'est difficile. Pour moi.
Les différences en tous les cas.
Moi, j'aime bien la savoyarde, par exemple. Ouais. Je ne sais pas, c'est peut-être que.
Un peu français.
Mon origine.
Ouais, ouais. C'est ça.
Mais et puis après, ça dépend aussi d'un producteur à l'autre. Mais c'est vrai qu'on est rarement déçu par un raclette valaisan.
Ouais.
Là, on est pratiquement sûr que ce sera toujours bon.
Okay,
donc, ça, c'est la deuxième qui est là, sur le plateau, que vous voyez. Ça, c'est la raclette du Valais, la traditionnelle. Donc, pour moi, c'est. J'aime pas employer ce terme, mais on dit que c'est la Rolls de la raclette, quoi.
Et donc, c'est laquelle?
C'est
la Valais. Le Valais.
Le Valais. Voilà.
C'est le cru Bagne.
Ouais.
Par exemple, cet été avec Bénédicte, on est allé dans le Val d'Anivier. On a ramené des raclettes du Val d'Anivier.
C'est le Graal, c'est le Creuset, c'était Châtel, Saint-Luc, tous ces coins-là.
Et on a pu en ramener quelques-unes et les affiner dans nos caves. Et maintenant, j'en ai plus du Val d'Anivier. Donc j'ai le Bagne. Ça, la texture, le fondant
et le goût,
c'est le top.
Wow.
Mais ça coûte la blinde.
Ouais,
vous le vendez combien, c'est 60 euros le kilo, non?
Moi je suis un peu moins.
Ouais.
Je suis autour de 50 euros.
Oui, là on est
dans le kilo. Alors que les autres, c'est 30 euros. Quoi.
Voilà. C'est ça, mais bon, on n'est pas obligé de prendre. On peut la varier. Ce qui
on peut en prendre un petit peu.
Oui, donc on a.
Un. Deux.
Oui, donc on a un bleu, là je vois. Un bleu de Gex, c'est ça?
Ici, il est là.
Oui.
Oui, le bleu Gex.
Il n'est pas commun pour la raclette.
Non. En fait, c'est curieux de proposer ça, et je vous cache pas que c'est un client sur 10 qui va décider de prendre un bleu.
Mais qu'est-ce que c'est le bleu de Gex, effectivement?
Prenez une petite tranche et montre-le en antenne, parce qu'il a un marbré qui est assez intéressant. Regardez.
Il faudrait que vous parliez, parce que sinon la caméra se déclenche pas.
Voilà.
Sur vous. Allez-y.
Voilà. Donc le bleu Gex, voilà. Le voilà.
À côté du
donc
micro.
C'est un bleu.
Montrez-le, montrez-le bien, à côté du micro. Il faut le rapprocher de votre micro.
Voilà. 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 Ah, en fait, vous êtes à la télé.
C'est moi qui le vois, donc c'est bien. C'est un bleu assez doux, hein, ouais. pas un bleu trop fort, persillé, un bleu avec un persillé léger aussi, un bleu tendre un peu, donc qui va avoir la particularité lorsqu'ils fond de vraiment pas se désagréger du tout.
C'est de la vache, hein.
Ouais, c'est de la vache évidemment. Hein. Mm-hmm. Oui. Gex, donc c'est du côté de Divonne-les-Bains. Hein. On est dans l'Ain. Et pour moi c'est un fromage qui est très bien. Mm-hmm. J'ai également comme autre fromage en bleu la Fourme de Montbrison.
Ah oui. Ah oui.
Ouais, Fourme de Montbrison, bon. qui aujourd'hui il y a des belles Fourmes de Montbrison fermières qu'on fait aujourd'hui. Là aussi on peut le mettre.
Et vous êtes venu donc ici avec des petites tranchettes, ce qui sous-entend qu'on met ça dans les petites machines à tiroir qu'on appelle en Suisse, Carlo, les...
Raclonettes.
Les raclonettes, c'est
mignon. Les raclonettes, ouais, c'est mignon.
Ça, c'est la machine, l'ustensile que la plupart des foyers belges ont à la maison. Donc, on met la petite tranchette.
Pas
de
tous, hein. Pas tous.
Non, mais
parce que...
c'est ce qu'il y a de plus courant.
Ouais.
Mais est-ce que c'est la manière la plus adéquate de réaliser la raclette, puisqu'il y a aussi la fameuse machine où on met
La demi-roue.
Ouais.
Alors, bien sûr, évidemment, en tant que fromager, on préfère avoir la raclette traditionnelle avec cette demi-roue. Il y a même des quarts de roue. Hein.
Mm-hmm. Ah, oui.
C'est bien parce que
coup,
ça dépend combien on est à table. La seule, c'est mieux. Je trouve que ce geste est incroyable de racler. Oh. Enfin, je sais pas.
On a plusieurs textures en fait,
oui.
Parce qu'on a le dessus qui est très coulant, le milieu et ces deux textures tombent dans l'assiette. Il faut manger relativement vite parce que évidemment ça se fige.
Et tout le monde mange pas en même temps du coup.
Mais
donc
non,
ça, oui.
C'est vrai. Mais
c'est convivial, on discute, on boit un verre, etc. Et c'est vrai que c'est magique la raclette.
Je dirais le gros avantage de la tranche, c'est qu'on peut varier les
plaisirs. C'est la grande variété.
C'est ça.
On
ça,
voit,
ça c'est formidable.
C'est
mais
ça.
En revanche, la demi-roue, je voudrais pour ceux qui disent, je les comprends, hein, qui disent qu'on mange pas tous en même temps. Au bout de deux tours de table, en fait, les appétits se calment un peu.
C'est ça.
Et en fait, c'est pas plus mal parce que on mange un peu plus lentement. Et on se noie pas le bide sous la raclette.
Carlo, vous pouvez commencer la dégustation, mais je voulais aussi signaler, et important de le signaler, qu'en matière de raclette, sky is the limit. On peut par exemple aussi choisir du belge, du wallon. Et nous rejoignons sans plus tarder Marcus Leyens. Bonjour Marcus.
Bonjour.
De la fromagerie Le Valet, V-A-L-E-T. On est dans les Hauts-de-Fagne, c'est ça?
C'est ça, c'est au sud des Hauts-de-Fagne, dans la... À Chopin, c'est la commune d'Orblève.
C'est ça.
Juste la frontière linguistique.
Alors, vous travaillez avec Andreas Keul, qui est en ce moment sur les chemins. Vous êtes donc artisan fromager. Et je vous ai convié ce matin parce que l'une de vos productions a été sélectionnée pour concourir au championnat mondial de la raclette qui se déroulait il y a quelques mois en Suisse. Alors, rappelez-nous, c'est quoi cette spécialité que vous produisez à la ferme Le Valet?
Ben, c'est fromage de raclette.
Oui.
La recette, elle est plutôt moins originaire du Valais. Pour ça aussi, le nom qu'on a choisi. Donc, c'est au lait de vache, bio, cru. Et spécialement, c'est du lait qui convient à des vaches qui sont nourries au foin en hiver. Et ce qui fait, pour un fromager, c'est le rêve. Quoi. C'est, généralement, on donne du silage aux vaches, mais pour le fromager, c'est pas l'idéal. En Suisse, par exemple, c'est interdit de fabriquer du lait cru, du fromage au lait cru avec du lait de silage.
D'accord.
Oui.
Donc, vous, des animaux hyper bien nourri, un lait hyper riche, hyper crémeux. Et au final, ça donne une production qui sent bon le terroir. On peut le dire comme ça, Marcus ?
Oui, c'est ça, ouais. C'est ça.
Et donc, vous avez créé ce valet, c'est, donc 3 mois d'affinage, c'est ça, si je ne me trompe
c'est
pas?
C'est ça, généralement, 3 mois au levant, mais on laisse aussi affiner plus longtemps, si le client le désire. Personnellement, moi, je préfère le fromage qui est plus affiné. Ouais. Mais à 3 mois, il a déjà un beau caractère et,
il a déjà du goût, quoi.
Il a du goût, quoi. Il est savoureux et légèrement épicé déjà, et on peut vraiment bien l'utiliser à froid comme à chaud. Et je trouve que ça vaut la peine de l'essayer.
Et donc ce fameux Le Valet, L-E-T, Made in Wallonie, il a été en lice pour ce concours mondial. Vous n'avez malheureusement pas remporté le championnat.
Prochaine fois.
Mais ça dit aussi la qualité de ses productions, parce qu'on n'est pas en reste, quoi. Il faut quand même le rappeler. Hein. Je vais vous dire, Carlo, sincèrement, je n'aurais pas pensé à prendre un fromage wallon pour faire ma raclette.
C'est parce que les fromages wallons sont moins connus en Wallonie, à Bruxelles et en Flandre que les fromages français. Ouais. Mais il y a quelques belles exceptions. Je trouve que le Valais est vraiment, ça devient une marque hein, quand même, ça commence à être connu. Et je pense, alors ça n'a rien à voir, mais le bleu d'Achel, le Grevensbrücker est aussi en train de devenir une marque. Il y a quelques fromages comme ça, comme la Meule de Plateau, qui sont en train de, et c'est pas des marques, c'est pas Maretsu, quoi. J'ai respect pour Maretsu, mais c'est un produit industriel de qualité. Je parle d'artisans qui sont en train de devenir des marques de leurs produits en dehors de tout AOC. Je trouve ça très intéressant.
Ouais. Et donc, votre fromage, pile poil, nickel pour une belle raclette. Ça, vous le confirmez, Marcus ?
Oui, bien sûr. Il est fait pour ça, quoi. Il est fait pour ça.
Nathalie.
Non, on m'a conseillé, Marcus, parfois de rajouter soi-même un peu de piment d'Espelette ou un petit peu de poivre, de moutarde. Vous le conseillez également ?
Bien sûr, c'est toujours une question de goût. Hein. Le fromage, c'est toujours une question de goût. Il n'y a pas de mauvais fromage. C'est pour ça qu'il y a autant de sortes, je dirais. Il y a toujours des clients qui aiment ceci et l'autre, il aime cela. C'est comme ça. Quoi.
Le fromage fondu aime les épices. On peut être d'accord avec ça.
Généralement, le noir, blanc,
effectivement, le piment, le fromage fondu adore les épices.
Bien sûr.
Et Marcus, votre fameux valet, on le trouve où
Dans les fromageries locales. Si vous voulez vous renseigner, on a un site web, c'est levalet.be. Voilà. Et là-dessus, vous voyez aussi les points de revente. Et même chez nous, vous pouvez l'acheter aussi directement chez le producteur. Vous pouvez même faire des visites chez nous dans la fromagerie, si ça intéresse quelqu'un, pour des groupes jusqu'à 20 personnes.
Avec le sourire de Marcus et Andreas quand il est là.
C'est ça.
Merci en tous les cas, Marcus, pour cette jolie découverte et vive nos fromages Made in Wallonie. Merci beaucoup.
Merci à vous et bonne journée.
Étienne, vous connaissiez ce fromage ?
Oui. On
valide ?
J'en ai pas en ce moment, mais j'ai déjà travaillé.
Valeur sûre, on ne s'est pas trompé.
Très bien.
Génial. Je vois sur votre plateau que vous avez mis aussi beaucoup de charcuterie, le cornichon incontournable. Les charcuteries, qu'est-ce qui matche bien avec la fameuse raclette ?
Alors la fameuse raclette, évidemment, là il faut parler un peu de la Suisse. Mm-hmm. Donc tout de suite, raclette du Valais, viande des grisons, c'est tout de suite...
Quand on dit viande des grisons, je me suis souvent posé la question, d'où vient cette origine des grisons ? C'est la région ?
C'est une région,
Je pose la question parce qu'elle m'est arrivée aussi ce matin.
Un canton, ouais, c'est un canton.
C'était pas un animal, quoi.
Ouais.
Non.
Non, c'est
pas un chamois, c'est pas une marmotte.
C'était une blague, Carlo.
Mais oui, j'en ai compris. Mais c'est les grisons, oui, c'est le canton où on parle romanche, cette vieille langue.
Ouais. Alors chez nous, j'ai pas trouvé la bonne viande des grisons que je souhaite pour le moment. On fait qui vient de Haute-Savoie, le bœuf charolais. Séché et fumé au genièvre, qu'on propose en alternative à la viande des grisons. Voilà. Donc, il marche très fort. C'est très, 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 très fondant. Il faut le couper très, très fin pour que ce soit très agréable. Et ça marche très, très bien en raclette. Voilà. En général, on choisit quand même plusieurs charcuteries.
Hein. Ouais.
Euh, Il y a bien sûr tout ce qui est Coppa, les Coppa italiennes, Coppa savoyarde aussi. Nous, on fait aussi, toujours en Savoie, une noix de jambon. Je crois que c'est Carlo qui vient de le goûter.
Oui, oui, c'est très bon.
C'est très bon, légèrement fumé un peu. Ça marche très très bien aussi. Pour ceux qui aiment un peu les produits un peu plus gras, on a aussi de la pancetta.
Ah ben oui,
qu'on peut faire griller sur le dessus.
Ah oui, pas mal.
Ça, c'est sympa aussi.
Mais bon, on ne lésine pas sur la qualité non plus de les charcuteries, hein, parce que c'est...
Ah, moi, je suis tellement obsédé de fromage que je mange la raclette sans charcutes.
Ah oui, mais on n'est pas obligé.
Comme un peu en Suisse, ils n'en mettent pas tellement. Tout le monde n'en met pas. Alors, après, les charcuteries que nous propose Étienne, elles sont absolument magnifiques. Et chacun fait selon son goût. Mais c'est vrai que le fromage.
Donc, tu ne manges que la patate et puis la charcuterie. Le fromage.
Ouais, patate, fromage, cornichon.
Et cornichon.
Petite salade.
Ah, attention.
Moi, je trouve. Alors, il faut vraiment une belle salade. Un truc qui a de la gueule. Bien vinaigré. Le cornichon, je trouve ça.
Petits oignons, aussi.
Il nous reste 2 minutes. Oui. Des auditeurs qui aimeraient savoir la recette pour la fondue. Donc, on a un caquelon. Oui. On veut faire fondre des fromages. Comment est-ce qu'on fait ?
Alors, le caquelon, c'est bien chez nous. On vous le prête. Par exemple, il y a beaucoup de fromageries qui le font aussi.
Donc il faut un caquelon spécifique.
Un vrai caquelon, ouais, en fonte.
Important.
Qu'on va chercher d'ailleurs en Suisse. Mm-hmm. Et alors donc vous allez dans un premier temps, vous allez faire votre mélange. On a 2 sortes de fondue savoyarde. En gros, c'est Emmental, Comté, Beaufort, toujours des fromages de qualité quand même bien affinés. Mm-hmm. Et puis la fondue suisse, moitié-moitié, avec le Vacherin fribourgeois, mm-hmm. qui est vraiment un fromage incroyable.
Et le
Gruyère AOP. Mmh. Et là, on a souvent la version alpage est très bien parce que ça a encore plus de caractère.
Mais qu'est-ce qu'elle a de différent ?
L'alpage, ça veut dire que c'est fait l'été à 1500 mètres.
Avec des vaches qui ont mangé de l'herbe.
D'altitude, qui ont mangé une bonne herbe.
Ok.
D'accord. Donc, du coup, les fromages sont plus goûteux. Ouais.
D'accord. Et donc, le caquelon, on met un petit fond de vin.
Donc, je frotte mon caquelon avec l'ail.
Ok.
Je mets le vin blanc. Le vin blanc, pas forcément utiliser peut-être le meilleur vin blanc qu'on va boire après.
Oh, si, hein.
Mais on peut quand même en mettre une petite goutte au fond.
Et là, vous avez choisi quoi comme vin ?
Ça, c'est un Chignard Bergeron. Je me rends compte que je suis très français, très savoyard.
Ouais.
Hein. Lorsque le vin blanc arrive à frémissement, on commence à mettre les copeaux qu'on a râpés préalablement.
Ou qu'on a fait râper par son fromager.
C'est ce que nous faisons aussi. Alors évidemment, il ne faut pas tout mettre d'un coup, hein, l'erreur.
Il faut petit à petit.
Mmh. Et on s'est bien muni de la petite cuillère en bois, surtout si vous avez la petite cuillère en bois avec le trou au milieu qui va donner un peu de l'air et permettre à la fondue de
bien prendre. Mais si on n'a pas, c'est grave ?
Non.
Fécule ou pas fécule, Étienne ?
Alors, souvent c'est la question, un petit peu de fécule.
Ça lie.
C'est quand même mieux.
Mais si on a un petit tour de main, ça peut le faire.
On peut y arriver.
Mais donc doucement, feu pas trop vif.
On voit quand ça commence à prendre. Après, on peut accélérer un petit peu.
Ouais.
Et à la fin, évidemment, poivre, noix de muscade.
Ah,
moi, j'aime beaucoup la noix de muscade. Après, il y a la notion aussi alcool ou pas, le kirsch. Moi, je suis pas pour.
Bons fromages, faut pas. Mais voilà, après, sky is the limit, cheese is the limit.
Ouais.
Hein, bon, on va s'offrir une petite pause pub et puis juste après, on va parler de femmes fromagères.
Exactement.
Allez, juste après cette petite pause, les amis.
Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits, sur RTBF Ovio.